I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant! Il fallait être matinal ce week-end pour assister à un événement que l'on a connu que 4 fois lors des 25 derniers Grands Prix. Max Verstappen n'a pas gagné. C'est Carlos Sainz qui s'est imposé en Australie. Et ça fait 2 fois après Singapour l'an passé que c'est l'Espagnol qui fait gagner Ferrari. Alors que la Scuderia, on vous le rappelle, a choisi il y a quelques mois de s'en séparer à la fin de la saison. Le triple champion du monde forcé à l'abandon par un frein arrière droit bloqué. Et c'est toute l'équipe autrichienne qui disparaît quasiment des radars pendant cette course. À quoi sert dans ce contexte Sergio Pérez? On se posera la question avec Stéphane. L'image spectaculaire du Grand Prix d'Australie à Albert Park, c'est la sortie de piste aussi de George Russell, lancé à la poursuite de l'Aston Martin de Fernando Alonso. Le pilote Mercedes a été piégé par une manœuvre jugée illégale et punie par les commissaires. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est proportionné? On parlera aussi de cette décision de la FIA. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Je me rends compte que je ne t'ai pas salué, Stéphane. Je suis parti là.
Bonjour Gilles.
Dans cette introduction d'un Grand Prix qui n'a pas été remporté par Max Verstappen. C'est toujours un événement.
Oui, et d'ailleurs, le Melbourne, ça ne lui porte pas spécialement chance parce que c'était maintenant la dernière défaite
le
dernier abandon de Verstappen, c'était à Melbourne, là, pour un problème technique. Ça a ouvert un petit peu le champ des possibles maintenant. On reviendra là-dessus, que ça resserre les positions au championnat. On ne va pas dire que le championnat est relancé ou que Verstappen s'est découvert des vrais challengers, mais ils ont quelques points de faiblesse encore et un petit problème de fiabilité au troisième Grand Prix. Ça arrive normalement plus tôt dans la saison. Bon, on prend, nous, hein, parce que ça fait un peu de changement quand même. Oui.
On va débuter les fous du volant aujourd'hui avec donc cette victoire de Carlos Sainz et de Ferrari. Une belle victoire qui pose question. Ferrari a fait un week-end plutôt convaincant avec la deuxième place sur la grille pour Carlos Sainz et finalement la victoire de l'Espagnol. La cinquième place sur la grille de Charles Leclerc qui offre finalement le doublé à la Scuderia, un peu aidé par l'abandon de Max Verstappen. Il faut le reconnaître. L'honnêteté nous pousse à dire que ça fait 2 fois, après Singapour l'an passé, que Sainz est capable de saisir une opportunité offerte par Verstappen pour s'imposer, et que ça n'a pas été le cas pour Charles Leclerc, qui n'a plus gagné depuis l'Autriche en 2022. Le Monégasque a fait le boulot en allant chercher la deuxième place. Il a participé aux festivités de la Scuderia. Mais ça peut quand même poser un petit peu question sur ce choix de se séparer de Carlos Sainz. D'abord, Stéphane, un chiffre, le nombre de victoires, le nombre de grands prix disputés depuis la dernière victoire. On prend les 3 top teams, oui. C'est-à-dire Red Bull, Ferrari, Mercedes. Sainz, ça fait 0, hein, puisqu'il a gagné le dernier grand prix, celui dont on parle, l'Australie. Auparavant, c'était 9 depuis Singapour. Verstappen, ça fait un seul grand prix depuis qu'il a gagné. Sergio Pérez, ça fait 21 Grands Prix depuis sa dernière victoire. George Russell, 26. Hein, c'était le Brésil donc en 2022. Charles Leclerc, on évoquait hein, l'Autriche 2022, 36 Grands Prix depuis sa dernière victoire. Et puis Lewis Hamilton, 48. Est-ce qu'à un moment, on ne perd pas le fil pour aller chercher une victoire?
Non, je dirais que non, parce que... Quand tu me poses cette question, je pense à Jenson Button qui a galéré pendant 8 ou 9 ans et puis qui a été champion du monde à partir du moment où il avait la bonne voiture. Je reviendrai sur Sainz, c'est sa 10e saison en Formule 1 Et on se pose la question, là maintenant, en fait, est-il devenu un numéro 1 oui. durable chez Ferrari? C'est un petit peu ça, ce que sous-tend cette victoire. Et un numéro 1 même embarrassant pour Charles Leclerc, qui gagne beaucoup plus souvent maintenant que Charles Leclerc. Tu as dit 36 Grands Prix pour Leclerc, c'est quand même, je ne pensais pas quand même ce chiffre-là, mais sa dernière victoire, c'est l'Autriche en juillet 2022, tout à fait. Mais Sainz, ça fait 10 ans qu'il est en Formule 1, et je ne pense pas qu'en 10 ans, en Formule 1 ou au bout de 10 ans, on se transforme, voilà, on se révèle. Button, on savait qu'il avait un énorme potentiel. Sainz, on sait qu'il a atteint son plafond de verre. Seulement,
est-ce qu'il n'est pas en train de le briser là?
Tout ce qui, non. Moi, je pense que la voiture, la SF24, lui convient particulièrement. Il a été bien dès le vendredi matin. En qualif, il a été quand même assez impressionnant. Hein. Derrière, Verstappen, c'est ce qui se fait de mieux encore. Et puis en course, surtout au 9e tour, il dit bah allez, creusons l'écart, on va prendre un petit peu de distance et la voiture est très bien pour moi. Alors, en fait, il est le patron là, il a pris le lead carrément à la radio. Ça se fait quand même rarement, c'est lui qui dicte ce qui se passe.
Si tu te souviens bien, l'année dernière, on s'était un petit peu amusé, on l'avait un petit peu taillé. Il intervenait régulièrement à la radio. Alors, on disait que c'était un peu pour manœuvrer, pour essayer de contrecarrer la préférence qui existait chez Ferrari et qui s'est confirmé envers Charles Leclerc. Bah finalement, là, même quand il est premier et quand Charles Leclerc ne constitue pas véritablement une menace parce qu'il s'est rapproché à un moment, mais ça a été contrôlé, bah il continue. Finalement, il est de fait le numéro 1 en ce moment.
Ah, il est le numéro 1 de toute façon. La voiture lui convient bien. Charles Leclerc, moins. Par rapport à ses affinités de pilotage. Le paradoxe, c'est que Ferrari a un futur ex-pilote dans son team. Et je me demande comment est-ce qu'ils vont continuer à le gérer, parce que Leclerc est quand même deuxième au championnat. Oui. Alors Sainz a le désavantage d'avoir raté un Grand Prix. Mais est-ce qu'il ne va pas... Il va pas falloir qu'il se mette en retrait par rapport à ça. Et il l'a rappelé malicieusement, je suis toujours sans emploi pour l'an prochain.
Ouais, ouais.
C'est assez marrant.
Il va y avoir une autre phase en fait dans cette saison, dans cette sorte de cohabitation chez Ferrari, entre Sainz et Ferrari. C'est le moment où Sainz va finir par trouver un volant pour l'année prochaine. Quelle attitude il va avoir? Est-ce qu'il va continuer à être aussi team player qu'il ne l'est en ce moment? Et il a raison, parce que de toute façon, c'est son seul salut. C'est de montrer vraiment qu'il est capable de gagner des grands prix, qu'il est capable de jouer pour son équipe. À mon avis, à la minute où il signe pour une autre équipe, les choses vont changer. On fait le point sur les chiffres. On a parlé là de ces 36 grands prix sans victoire pour Charles Leclerc. On va pas faire le procès hein, du monégasque évidemment, mais quand même, on se dit qu'il y a une montée en puissance de Carlos Sainz que tu
bon, on a regardé un petit peu. Ouais. Oui, depuis donc cette victoire de tout ce qui s'est passé après l'Autriche 2022, eh bien on voit que donc Sainz a remporté deux grands prix contre aucun à Leclerc. Leclerc quand même continue, hein, c'est une assurance tout risque pour les podiums d'avoir des podiums quand même en nombre assez conséquent, presque le double, 14 contre 8 à Sainz. Mais pour ce qui est des tours en tête, on a vraiment vu Sainz devant, et sur les victoires qu'il a remportées, les deux, c'était quelque chose de net, Singapour oui. et Melbourne, hein, et ça lui fait en tout, hein, depuis l'été 2022, 154 tours en tête contre 76 à Leclerc. Ça veut dire que Sainz, quand il est dans un bon week-end, on ne peut pas l'arrêter.
Exactement. Si on prend les pole positions, ça reste encore un chiffre qui est favorable à Charles Leclerc.
C'est toujours ce qu'on a souligné ici, vraiment en vitesse pure, Leclerc garde le lead. Mais
quelque part, est-ce que ça souligne pas un petit peu sa faiblesse? C'est-à-dire que, ok, il est capable d'aller très vite sur un tour, on le sait. Il en a au total, il en a un peu plus hein, des pole positions. Là, c'est vraiment que depuis la Hongrie 2022
la France. Ouais. 2022, 8 pole positions pour Leclerc, 4 pour Sainz, et les duels en qualif sont encore plus déséquilibrés. Ouais. Leclerc mène 21 à 11, donc c'est quand même net. Et puis on avait été même pas sévère, hein, on avait souligné la faiblesse vraiment de Sainz à la fin de la saison dernière.
Ouais.
Mais je pense que la voiture de cette année lui convient très très bien, et a fortiori on a vu toutes les difficultés qu'avait Leclerc par rapport à cette machine. Leclerc a eu un petit peu tout ce qu'il pouvait avoir comme difficulté, et spécialement en qualif. C'est quelqu'un qui a besoin d'un train avant très fort. Il a dit en fait qu'il était un peu perdu, qu'il n'avait pas le feeling, qu'il n'avait pas assez de grippe à l'avant. Et là, il était nulle part. Et il s'est fait un peu rouler dessus. Et puis dimanche, la situation un petit peu inverse. On l'a vu survirer, manque de grippe à l'arrière. Donc on passe d'un défaut à un autre quand même. Hein. Mmh. Et il fait deux bons relais. Le premier et le dernier, donc le troisième, et celui du milieu. Et il est assez médiocre, voilà, tout à fait. Le premier,
crucial, parce que
en pneu dur, voilà.
Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais tout le monde attendait, une fois qu'il s'est rapproché un peu de Carlos Sainz, à entendre la voix de Fred Vasseur en disant « Carlos, Charles is faster than you », si vous voyez ce que je veux dire. Il a fait ce qu'il fallait, Carlos, hein, pour éviter ça. Et Fred Vasseur a eu, je trouve, l'intelligence de stabiliser, en fait, et de... finalement, de désamorcer ce qui aurait pu être un cataclysme.
Mais Leclerc est un peu perdu là-dedans. Il tente quelque chose de désespéré, un réglage plus agressif. Il expliquait samedi sur son aileron avant et qu'il l'a encore plus enfoncé, je dirais, dans un nulle part là, dont il ne sait pas se sortir, vraiment. Et puis, en course, quand même, sa petite chance, ça a été de s'arrêter avant,
oui.
Parce que ça l'a positionné devant Norris, et c'est ce qui a sauvé sa deuxième place.
Oui, c'est ce que, j'allais dire. Ouais.
Mais autrement, il s'arrête quand même 7 tours avant Sainz, ce qui est énorme. Et puis, si tu regardes bien, à la fin du premier relais, et même, je crois, à la fin du deuxième relais, Sainz est le dernier cador à s'arrêter. Ça veut dire qu'il roule à découvert. Mm. Sur les deux fois, c'est dire la confiance qu'ils ont. Parce que si y a une voiture de sécurité qui intervient à ce moment-là, c'est fini.
Oui, voilà. tu peux le prendre. Parce que si une voiture de sécurité s'est sortie, on aura dit, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait rentrer plus tôt? Bon.
Tout à fait. Mais ça veut dire qu'il y a une forme quand même de domination qui est même... Il y a un goût du risque qu'on ne leur connaissait pas, c'est presque déraisonnable. Mais autrement, en course, à un moment, je crois que c'est tour 20, un petit peu après son arrêt, il a fait passer son avance de 2 secondes 6 à 4 secondes 4 en 3 tours, décidant d'attaquer simplement pour sortir Charles Leclerc de sa zone DRS et puis de prendre le large. Il a fait ce qu'il voulait vraiment. Et puis
de
derrière,
se mettre à l'abri d'une consigne qui aurait pu être un petit peu embarrassante. Ce qui est certain, c'est que du côté de chez Ferrari, on ne se pose pas du tout ces questions. Hein. Charles Leclerc, c'est le petit prince chez Ferrari. On a misé sur lui. L'avenir de Ferrari, c'est Charles Leclerc. Et évidemment, avec la décision qui a été prise il y a quelques semaines de se séparer de Carlos Sainz et de mettre Lewis Hamilton, c'est pas du tout un axe de questionnement. Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe d'ailleurs chez... On en avait parlé de Lando Norris et d'Oscar Piastri. Lando Norris, c'est le petit prince hein, chez McLaren. Hein, même si on a vu... Et d'ailleurs, ça s'est vu, la consigne d'équipe, je crois qu'on en reparlera. On chouchoute vraiment Lando Norris chez McLaren. Si on en revient un petit peu plus précisément maintenant à Carlos Sainz, ça veut dire qu'on a quand même un garçon qui a 2 victoires à son compteur. Sur le marché des transferts pour l'année prochaine. On avait évoqué l'arrivée de Audi qui prendra la suite de Sauber. Bah, j'ai envie de dire, Audi, c'est presque sous-dimensionné. Aujourd'hui, quand on s'appelle Carlos Sainz, ce qu'on veut, c'est le baquet de Sergio Perez chez Red Bull.
Oui. Bah, lui, ce qu'il recherche, c'est du prêt à gagner.
Et on est bien d'accord.
Chez Audi, ils visent la victoire, les podiums à partir de 2028. Ils ont un moteur à construire, on ne sait pas dans quel état ils sont. James Key est à la direction technique, mais c'était un petit peu juste chez McLaren qu'il l'a remercié assez sèchement. Je le vois pas s'embarquer dans quelque chose comme ça sur un projet qui n'a pas beaucoup de lisibilité. Et aujourd'hui, pour Carlos Sainz, la meilleure solution pour l'an prochain, c'est évidemment Red Bull et de loin.
Eh oui, clairement, le baquet de Sergio Perez. On a vu aussi une évolution du discours de Toto Wolff chez Mercedes qui commence à s'intéresser sérieusement. Et puisque Ferrari m'a piqué Lewis Hamilton, peut-être que moi je vais leur rendre l'appareil et que je vais aller chercher Carlos Sainz. Mais c'est un risque quand même, parce que est-ce qu'ils vont finir par réussir une voiture chez Mercedes ?
Oui, ça c'est encore autre chose. Je pense que Sainz, il veut monnayer ses succès. Si on lui propose un bon contrat, il ira chez Mercedes. Ça sera Red Bull ou Mercedes, on ne le voit pas ailleurs, franchement.
En fait, t'as pas, l'idée c'est aussi chez Red Bull, t'arrives, c'est un peu le Verstappen Racing, quoi. Tu vois, si t'arrives chez Mercedes, t'es peut-être...
Alors,
plus enclin tu te dis, je m'appelle Carlos Sainz, je peux peut-être plus facilement prendre l'avantage sur George Russell que sur Max Verstappen chez Red Bull.
Oui, Alors, sachant que chez Red Bull, il y aura un problème de taille tant que Helmut Marko y serait et qu'il n'aurait pas changé d'avis sur les années Toro Rosso. Au moment où Sainz postulait un volant chez Red Bull, eh bien, Helmut Marko avait dit ça n'est pas possible parce qu'ils entretiennent une relation qui est toxique. L'entourage de Sainz n'est pas compatible avec l'entourage des Verstappen. Alors, il faudra certainement que Verstappen parte pour que Sainz arrive ou que Helmut Marko change d'avis.
Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire. Avec le temps, parfois...
C'est tout à fait possible. Alors, Sainz, quand même, hein, il a le clan Sainz, hein, parce que Sainz Junior aussi est assez intrigant, polémique. Senior, pardon, est très politique. Hein. C'est quelqu'un d'intrigant en coulisses. Chez McLaren, il n'y avait pas eu de problème avec Sainz, qui a quand même son caractère. Chez Renault, non plus. Dans ces écuries-là, il n'y avait pas eu de soucis. Chez Ferrari, il y en a eu un peu, mais franchement, ça n'a pas tellement frotté. Donc, peut-être qu'il est maintenant, il a le caractère ou l'approche pour aller chez Red Bull, mais c'est l'entourage, je pense, qui pose problème, c'est tout.
Bon, il faudra qu'on voit tout ça dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais clairement, ça va être intéressant de voir l'évolution maintenant et les recherches de Carlos Sainz pour un volant l'an prochain. On va parler de Red Bull, évidemment, aujourd'hui, avec cette fin de série de 9 victoires consécutives pour Max Verstappen, qui s'est donc achevé sur ce Grand Prix d'Australie. On peut résumer ça comme ça, Stéphane, si tu le veux bien. Un étrier vous manque et tout est dépeuplé.
D'accord.
Voilà. Bon, forcé de jeter l'éponge par un frein arrière bloqué, Max Verstappen a donc laissé Sergio Perez défendre seul les couleurs de la firme autrichienne. Deux fois deuxième cette saison, hein, lors des deux premiers Grands Prix, derrière Max Verstappen. Sergio Perez, il aurait dû logiquement prendre la suite en Australie. Et en fait, non seulement il fait même pas troisième derrière les deux Ferrari qui semblaient très très bien en course, mais il a même pas existé. Il termine cinquième d'un Grand Prix dont il prenait le départ en sixième position. Si tu enlèves Max Verstappen de l'équation, bah ça lui fait gagner une place. Donc il termine cinquième. Il a doublé. Il a doublé personne. Et j'ai vraiment le sentiment qu'en un an, tout a changé pour Sergio Perez. Je ne sais pas si tu te souviens, le début de saison l'année dernière, il avait gagné à Jeddah au moment où on arrivait en Australie. Il était parti de la dernière place sur la grille à Melbourne. Il était remonté jusqu'à la cinquième place sur un circuit où c'est quand même compliqué de dépasser. Il avait fait quand même une remontée assez fantastique. Il avait enchaîné ensuite avec une victoire à Bakou. Là, il s'était lâché en disant « bah je joue le titre ». Bon, et ensuite, tout avait décliné. Le vrai problème, c'est que ça met encore une fois Red Bull à portée de fusil de Ferrari au classement des constructeurs. Hein. Il n'y a que quelques points d'avance.
4 points d'écart, hein, tant chez les pilotes que chez les constructeurs.
Ouais.
Donc c'est un vrai souci. Et à mon sens, là, la question qu'on se pose chez Red Bull, c'est est-ce qu'on n'a pas retrouvé le Perez de 2023 hésitant, qui a des trous d'air absolument énormes sur plusieurs Grands Prix. Bon, moi, l'enseignement que je tire de ce week-end, c'est que Red Bull a fait du Ferrari et Ferrari a fait du Red Bull.
C'est pas mal, ça.
Ferrari, c'est Fred Vasseur qui l'a dit, dès les
D'accord.
premiers essais,
ah,
on
ouais.
a trouvé les bons réglages et tout s'est bien déroulé ensuite. La voiture a été optimisée en termes de réglages. L'exploitation des pneus a fait un progrès spectaculaire, il l'a dit, par rapport à l'année dernière. Alors que Perez avait dit que avec un cran plus tendre de pneumatique, avec une dégradation beaucoup plus élevée, Ferrari allait souffrir le dimanche. C'est pas ce qu'on a vu.
Non, pas du tout.
En revanche, chez Red Bull, il y a eu des problèmes avec ces sorties de piste qui ont abîmé plusieurs planchers en essai libre 1. Ça a coûté 20 minutes de roulage à Verstappen en essai libre 2. Et Verstappen, à la fin de la journée, de la première journée, il a dit « Il nous a manqué 20 minutes pour mettre au point la voiture ».
Tu crois que ça se joue à ça ?
Bien sûr, tout à fait.
Ouais.
Et Perez a dit, en fait, en tant qu'équipe, on n'a pas su mettre la main sur les bons réglages et bien exploiter surtout la dégradation des pneus. Pour lui, tout venait de là.
Et ça rappelle beaucoup Singapour l'année dernière. En fait.
Bah exactement. Donc Red Bull a pris du retard qu'il n'a jamais rattrapé. Et on voit que si Verstappen ne fait pas ce travail complètement, eh bien, en fait, on ne peut pas le coller sur la feuille de route de Pérez, parce que maintenant, on sait qu'en fait, ils prennent les réglages de Verstappen et puis ils les collent sur la voiture du Mexicain, qui a droit à quelques ajustements et puis c'est réglé. Et si, de toute façon, il a grogné aussi Verstappen pendant les essais sur du sous-virage, la voiture qui ne lui convenait pas, bon, et dans ce cas-là, on sait que Pérez ne va pas s'en sortir. C'est pas lui qui va sauver l'équipe, c'est pas lui qui va être le backup. Dommage, hein, il fait deux fois deuxième, et puis là où on l'attend, bah, il est absent, et il n'est pas capable de suppléer. Bon. Et puis à côté de ça, bah, il est quand même fautif, il gêne Hülkenberg en Q1, pour moi ça ne devrait plus arriver, et il s'achète des problèmes, et effectivement, il aurait peut-être pu gagner sans ça, mais bon, ça c'est une autre histoire, voilà. Et il a dit globalement qu'il manquait de grippe, etc. Puis alors, attends, l'explication fantastique quand même de Christian Horner. Alonso a laissé partir un tire-off qui s'est fiché dans son fond plat et qui a coûté 20 points d'appui. Et là, qui a complètement, on va dire, déglingué la voiture, je ne trouve pas d'autre mot, à entendre Horner. Et quand je vois ça, quand même, je me dis, mais Horner, en fait, il a besoin d'appui, il cherche des appuis chez Red Bull dans cette affaire qui n'est peut-être pas terminée. Et on sait que Checo a aussi une influence, un poids commercial considérable dans l'environnement de Red Bull. Et là, bah, il lui tendait un petit peu la main pour avoir un soutien aussi. Je pense que c'était vraiment du mutualisme. Mais c'est extravagant. Cette explication ne tient pas la route. Pas du tout, quoi. Et puis, quand Russell se fait dépasser par Pérez, bon, bah, ce que dit Russell, c'est que cette voiture est une fusée, quand même. Donc, bon, par moment, elle fonctionnait quand même bien, simplement, avec différents types de pneus, différentes allocations d'essence. Bah, ça marche moins bien pour Pérez.
On a le sentiment, en fait, qu'il arrive moins bien à... la qualité de Verstappen, c'est quand même de réussir à exploiter une voiture qui a une fenêtre d'utilisation. Moi, j'ai le sentiment quand même que la fenêtre d'utilisation de la Red Bull sur les pneumatiques, elle est un petit peu plus étroite que l'an passé. C'était un peu le but de chez Pirelli. Pirelli a manqué le coche chez Ferrari. Ferrari, ils ont réussi au contraire à augmenter un peu cette fenêtre. Par contre, ça marche un petit peu chez Red Bull. Le talent de Verstappen fait qu'il arrive à la maintenir à l'intérieur et que quand il est dans cette fenêtre, il est absolument injouable, intouchable, et que quand on s'appelle Pérez, on n'arrive pas à rester dans cette fenêtre et que quand on n'y est plus, eh ben on redevient un pilote lambda.
Et puis il finit à 56 secondes quand même du vainqueur.
C'est
énorme, c'est une seconde par tour.
Voilà,
c'est gigantesque avec une virtual safety car qui n'a pas changé grand-chose. Et puis Pérez a perdu aussi une place au départ avec les bons pneus quand même. Non, tout ça, ça colle pas. La question doit vraiment se poser maintenant. Mais en même temps, Pérez, il a pas tellement à craindre. Bah, hein, tu l'as dit.
C'est ce que j'allais te dire, Stéphane. C'est que en fait, pour l'instant, le principal allié de Pérez, c'est même pas Christian Horner qui doit avoir autre chose à gérer. Bah, c'est que en fait, celui qu'on présentait comme la menace fantôme de Sergio Pérez, Daniel Ricciardo. Il n'existe pas, on ne l'a pas vu.
Non.
Il fait plus rien. Il s'est fait manger tout cru par Yuki Tsunoda, qui rentre pas dans les calculs de Red Bull pour l'instant.
Non, parce qu'ils ont dit qu'il était performant le samedi, mais il ne l'est pas le dimanche.
Ouais,
pas suffisamment, donc ça ne fait pas de lui un postulant au baquet de la seconde Red Bull l'an prochain. Et Marco a même été plus clair que ça. Pour l'avenir, et même 2025, il aimerait un pilote jeune, pas avec de la bouteille comme Checo Pérez ou comme Ricciardo, ça servirait un petit peu à rien. Non, l'idée qu'il a vraiment, c'est Lawson.
Oui.
Et on le sent venir, hein. De toute façon, Ricciardo il passera pas l'été s'il continue comme ça, hein. Et il mettra Lawson dans la voiture, et après je pense qu'il hésitera peut-être même pas à mettre Lawson en numéro 2 si Verstappen reste. Il faudra juste un numéro 2, et ce Lawson, il a du talent.
Ah ben ça, oui, clairement. Et après, il y a peut-être une autre équation qui est en train de rentrer dans tout ce calcul. C'est un Carlos Sainz, on l'évoquait il y a quelques minutes, qui est en train de prendre un petit peu la lumière. Il y a une photo magnifique d'ailleurs du podium de Melbourne. Je ne sais pas si tu as vu cette photo qui circule sur les réseaux sociaux où en fait on voit Carlos Sainz, le podium est dans l'ombre, et on voit Carlos Sainz, il y a un rayon de lumière qui vient l'éclairer lui. Enfin, c'est vraiment assez, assez spectaculaire.
Donc bon, globalement quand même un week-end mauvais.
Oui, c'est ce que j'allais
mauvais
dire.
Mauvais, et
c'est
même
vraiment, c'est un des plus mauvais week-ends.
Sur le front des coulisses aussi, parce que il y a une information qui a circulé du média allemand Bild, qui est un média sérieux, qui est généralement bien informé sur la Formule 1 et qui a sorti quelques scoops spectaculaires ces dernières années, et qui a indiqué que les négociations sont avancées entre Adrian Newey et Ferrari. Voilà. Alors, on sait qu'en Formule 1, tout le monde parle avec tout le monde, mais oui. Ça fait des années
qu'on n'avait pas entendu Adrian Newey parler avec quelqu'un d'autre.
Oui, voilà. Mais il a toujours repoussé ces offres-là et il est un petit peu plus réceptif. Alors, c'est un monsieur maintenant qui a 65 ans, qui a fait le tour de la question quand même, qui est chez Red Bull depuis 20 ans. S'il part, franchement, il peut dire, écoutez, la maison est bien gardée avec Pierre Vacher, qui est le directeur technique. Adrian Newey est devenu un super consultant maintenant et il a ce petit regret encore. Il y a peut-être cette petite musique qu'on nous explique qui revient. C'est Ferrari. Est-ce que c'est pas un gré? Est-ce que ça serait pas le moment d'y aller au stade où il est dans sa carrière? Et puis c'est quelqu'un qui avoue qu'il aimerait travailler avec Lewis Hamilton.
Eh oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Je te laissais, je voulais pas
alors,
te couper.
Ce qui est extraordinaire, c'est que cette information n'a pas été très très diffusée, mais il y a un média néerlandais qui l'a repris et ce média est aussi très bien informé au fait de ce qui se passe dans l'environnement de Max Verstappen.
Oh là, le coup de tonnerre.
Donc, je pense que Fred Vasseur est en train d'œuvrer, là, on verra si ça se fait, mais je trouve que ça aurait de l'allure, parce que quelqu'un comme Adrian Newey, s'il part là maintenant, je pense qu'il faut... il aura une retraite obligatoire de 12 mois avant de passer, parce que voilà, il y a des secrets industriels qui peuvent pas s'éventer
comme
ça. La clause
de jardinage.
Tout à fait. Alors, ça serait pas juste 6 mois, je pense, pour lui, ça serait un an. Mais s'il partait prochainement, il pourrait quand même revenir à la mi-2025. Et je pense que
préparer
2026. Il pourrait, voilà, c'est ça, au design d'une voiture. Alors, en plus, les écuries n'ont pas la possibilité de travailler sur les voitures avant le début de la saison 2025, sur le nouveau règlement 2026. Et souviens-toi, Gilles, Adrian Newey, il sait très très bien faire et très vite. En 97, il arrive chez McLaren le 1er août et avant la fin octobre, la voiture de 98 est terminée. Et c'est un missile. Häkkinen, Coulthard, multiplie les doublés, on est parti pour une saga fantastique. Ça veut dire que là, on est sur une fenêtre de tir. C'est l'occasion en or pour Ferrari de le convaincre. Et pour lui d'y aller, qui a toujours dit que ses enfants étaient... il avait une famille jeune, il ne la voyait pas aller en Italie, migrer en Italie. Bon, ces problèmes-là n'existent plus aujourd'hui.
Oui, ça y est, il a plus d'enfants en bas âge.
Tous les feux sont ouverts. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui est projet pilote, tu sais, au début de sa carrière chez les Townhouse, donc March, chez Williams. C'est lui, il faisait un petit tour en voiture pour voir comment était sa création. C'est lui qui testait les voitures. Et il a un côté pilote, hein, on le voit au festival de Goodwood, etc. Il tourne avec ses propres voitures. Donc, c'est aussi un amoureux du pilotage et des relations avec les pilotes. Et cette perspective de bosser avec Hamilton aussi lui plaît, je pense.
Ça serait quand même le transfert. Alors, il y a déjà eu le transfert du siècle. Alors, je ne sais pas comment on peut dire, là, mais l'association du millénaire entre Adrian Newey et Lewis Hamilton, ça serait quand même énorme. On en reparlera. On va parler de quelque chose d'un petit peu moins bruyant. C'est le côté sombre de Fernando Alonso qui a surgi pendant la bagarre pour la 6e place de ce Grand Prix d'Australie. À l'entrée dans l'avant-dernier tour, on assiste à une énorme sortie de piste de George Russell. D'abord, la première question, c'est pourquoi dans la seconde, le directeur de course n'appuie pas sur le bouton pour... faire sortir tous les drapeaux rouges, arrêter immédiatement cette course.
On est au 57e tour, c'est vrai que ça change pas grand-chose.
Bah non, non, non.
Alors après, on s'en fout. Même c'est si complètement indépendant de. Mais voilà.
Et il y a une voiture qui est hyper hyper exposée en plein milieu de la piste. C'est bon, ça, il faudra en reparler parce que c'est complètement.
Alors il peut sortir un double drapeau jaune. Hein. Oui. C'est quasiment l'équivalent d'un drapeau rouge, sauf que les voitures restent en piste et qu'on peut reprendre la course après sans césure.
Ouais, bon. Je suis d'accord, mais c'est quand même. Enfin là, si on sort pas le drapeau rouge.
Et puis surtout, on le sentait qu'il avait peur. Russell, personne n'aurait voulu être à sa place à ce moment-là. Enfin, c'est voilà. Il y a eu d'autres accidents absolument dramatiques dans l'histoire de la Formule 1 sur des scènes comme ça.
La deuxième question qu'on se pose, on va y venir. Les commissaires ont donc été saisis après l'arrivée de la course par le directeur de course qui a entendu les deux pilotes, leur entourage. Après étude des datas, les commissaires sportifs ont décidé de punir Fernando Alonso d'un drive-thru, sauf que comme la course a été terminée, ça a été converti en 20 secondes, ajouté à son chrono de course, plus 3 points sur sa licence. La justification des commissaires sportifs, c'est, je vous lis le communiqué officiel, « La télémétrie montre qu'Alonso a levé le pied un peu plus de 100 mètres plus tôt qu'il ne l'avait jamais fait dans ce virage pendant la course. Cette manœuvre a créé une vitesse de rapprochement considérable et inhabituelle entre les voitures. » En faisant ces choses, il a conduit d'une manière qui était à tout le moins potentiellement dangereuse, étant donné la nature très rapide de ce virage de la piste.
On était dans le 6 et le 7. Hein.
Oui, c'est ouais. Ça. C'est un enchaînement qui est
spectaculaire. Hein.
Qui est magnifique. Ouais. Qui est magnifique. Mais d'ailleurs, dans la cool room, les pilotes en ont parlé hein, de ce virage-là. Et je crois que c'est Charles Leclerc qui disait que ça serait peut-être pas mal de mettre des dégagements, hein, de mettre le mur un petit peu plus loin. Si les data prouvent que c'est volontaire, à mes yeux, ça mérite beaucoup plus qu'un drive-thru. Parce qu'un drive-thru, excuse-moi, c'est l'équivalent d'un changement de pneu manqué. Enfin, c'est pas une grosse pénalité.
Alors, tu remarqueras quand même qu'il prend 3 points de super licence de retrait. Hein. Oui. Généralement, c'est 1 ou 2 pour une imprudence. 3, ça commence à taper fort. Ça veut dire quand même qu'il y a une responsabilité engagée.
Ça veut dire qu'il peut faire 3 autres fois ça avant de perdre son...
Enfin, non, mais ça veut dire qu'il y a une gravité qui est quand même perceptible dans cette sanction-là. Bon, après, c'est pas... Il n'est pas coutumier du fait, dans le sens où en provoquant des accidents, mais ça, c'est la petite pollution habituelle qui ne se sent pas trop dans la bagarre. Si on freine 10 mètres, 20 mètres avant, le pilote poursuivant va le sentir. Là, c'était grotesque. Mmh. Bon, franchement, et deux fois.
Et j'attaque pas Fernando Alonso. Personnellement, on a évoqué 100 fois son engagement qui est total à 100%, qui est magnifique. En fait, ce qui m'interroge, c'est, voilà, on a les preuves. Pourquoi on met un drive-thru qu'on convertit en 20 secondes ? Pour moi, ça justifie la disqualification du Grand Prix, éventuellement une suspension derrière. Parce que ce qui s'est passé, il a pris 20 secondes. Ok, très bien, il perd 2 places. Oh, incroyable, il perd 2 places. Wow. Et surtout, ça permet à Lance Stroll d'en gagner une. Donc en fait, pour son employeur, une partie des pertes des points est déjà compensée par l'autre voiture.
Et puis, 20 secondes. C'est ce qu'avait pris Magnussen en deux fois pour avoir serré Albon contre un mur lors du premier Grand Prix ou le deuxième à Jeddah. Ouais. Et puis d'avoir volontairement quitté la piste pour rester sur sa position illicite. Exactement, mais on en arrive à 20 secondes.
Moi, ce qui m'embête, c'est que les gamins qui font du karting le dimanche matin, ils ont ces pilotes-là en référence. Et dans un karting, il n'y a pas une voiture qui vaut plusieurs dizaines de millions d'euros pour vous protéger autour de vous, quoi. Là, ça peut se traduire par des vrais accidents. Je trouve que là, il va falloir sévir un petit peu parce que on a vu là, ça s'est terminé de manière très très spectaculaire et très inquiétante avec cette voiture retournée, enfin sur le flanc pour George Russell. Mais il y a eu aussi la défense de Hülkenberg sur Albon. On en a des tas et des tas d'exemples de situations où on fait des choses qui sont complètement folle, anti-sportif là, quelque part, bon déjà ça pose un problème, on est là pour faire la course, mince messieurs, quand même s'il y a une voiture qui est plus rapide que vous et que vous n'arrivez pas à y résister, je veux pas parler de chevalerie, mais voilà, c'est du sport.
Non, puis
à un moment,
c'est incohérent. S'il a un problème technique, s'il y a quelque chose qui explique qu'il a par exemple un problème, il a besoin de recharger un petit peu plus sa batterie, il peut faire ça, même si c'est complètement imprudent. Il y a une explication. Je parle pas de justification.
Ça se verrait sur les
datas. Mais lui, il explique quand même que ça fait 15 tours qu'il fait des tours qualifs et que sur les deux derniers, il décide de changer de tactique. Bon, c'est juste pour essayer de faire peur à Russell, de le sortir de sa zone DRS et de terminer tranquillement le coude à la portière. Bon, sauf que ça n'a pas bien fonctionné, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué jusqu'au bout ? Bon, voilà, donc...
On vous a passé les détails, mais en fait, il a expliqué qu'il avait déjà freiné un petit peu plus tôt, qu'il s'est rendu compte qu'il avait freiné un peu trop tôt, qu'il a remis un peu de gaz.
Enfin, il a combien le Grand Prix au compteur, il est arrivé à 400, donc...
Mais c'est même ça, pas, c'est... je te dis encore une fois, c'est même pas, je m'attaque même pas à la personne d'Alonso, je m'attaque à cette situation et où en fait, on aboutit à une pénalité. Franchement, il n'y a aucun pilote qui se dit oh là là, il ne faut pas faire ça parce qu'on prend 20 secondes. Si ça te permet, honnêtement, si ça te permet de garder ta cinquième ou ta sixième place, Les mecs vont le tenter tous les week-ends.
Ouais,
hein.
Ouais, tout à fait. Mais ils auraient pu assortir aussi cette sanction d'un grand prix de suspension avec sourcil.
Par exemple.
Une période probatoire. Voilà. Et puis on aurait dit, tiens, ah, vraiment, il y a un message qu'on envoie même à tout le monde.
Bon. Bref, c'était une sorte de coup de gueule. Et je crois que toi aussi, t'en as un à faire passer,
on a
Stéphane.
Les mêmes. Non, mais on a les mêmes, Gilles. De toute façon, ça, c'est clairement. Sur cette course de dimanche, il y a deux consignes d'équipe, chez McLaren et chez Haas, à demander à inverser des positions. Alors, sur l'instant, si tu veux, on entend ça, l'ordre passe à la radio, mais on se dit, bah, il joue un petit peu avec les positions, il y a un pilote préféré et il faut comprendre tout ce qu'il y a derrière. Alors, on a des explications ensuite, mais le grand public ne comprend pas ça. Et je trouve que cette année, et même on a vu l'année dernière, les Grands Prix ne sont quand même pas excitants. Il n'y a pas un grand suspense et on aimerait qu'il y ait de la bagarre autant que possible, même dans le peloton. Et là, on s'aperçoit que bah, quand il peut y avoir un peu match, eh ben, on en décide autrement. Et je me suis dit, tiens, bah, ça devient, la Formule 1 devient un sport d'équipe. Moi, je n'étais pas au courant, franchement. Et j'ai trouvé ça dur quand même pour Piastri. McLaren, après, l'a justifié. Piastri aussi a dit on n'était pas exactement dans la même stratégie avec Lando Norris. Il s'est arrêté plus tard. Donc, il avait perdu sur son arrêt au centre puisqu'il était passé derrière Leclerc. Et donc, derrière Piastri. Donc, Norris poussait. Et Norris était plus rapide. Et Piastri dit, je comprenais qu'il était plus rapide et que c'était raisonnable de le laisser passer. Bon, voilà. Mais n'empêche que, moi, j'en viens toujours à la même chose. Et puis, même chose chez Haas, hein, où Magnussen était plus rapide. Bon, voilà. Mais j'aimerais, moi, avoir des courses où les pilotes, franchement, décident de leur stratégie et puis défendent leur morceau de steak comme il se doit, plutôt que de tomber un petit peu dans des arrangements. Piastri, il est australien, il est natif de Melbourne. Lui enlever un podium, quand même. Là, bon, c'est un peu moche. Tout ça pour finir 3e et 4e. Dans l'ordre ou dans le désordre, qu'est-ce que ça change ? Alors à cet instant-là, Pérez était une vague menace, c'est comme ça aussi qu'on le justifie, mais franchement, nous, quand on suit ça en tant que fan, on s'y retrouve pas et on s'est dit que les équipes prennent le contrôle de la course et ne se rendent pas compte qu'elles font la course pour elles et qu'elles ne proposent pas un produit sportif pour le public.
Ouais, mais ça, voilà. Ça, c'est tout l'enjeu. Il y a aussi une autre décision qui a fait beaucoup parler ce week-end, un petit peu plus tôt durant le week-end. C'est lorsque Alexander Albon a explosé sa Williams et qu'on a donc gentiment dit à Logan Sargeant, « Dis donc, Logan, descends de ta voiture. Viens donc dans le box. Tu vas voir, on voit vachement bien la course et on va donner ta voiture à Alexander Albon.
Ouais. »
Alors, c'est compliqué parce que...
On recontextualise quand même, donc Williams n'a pas de voiture de rechange, ils n'ont que deux voitures construites qu'ils emmènent sur les 5 premiers Grands Prix. Il y aura une troisième voiture, un mulet, ou une coque en fait de rechange à partir du Grand Prix de Miami. Bon, très bien. Mais pendant ce temps-là, ils doivent se tenir à carreau. Rappelle-moi, Gilles, la consigne des directeurs d'équipe lorsque débutent les tests hivernaux où il n'y a qu'une seule voiture, même en piste, et que chaque pilote a une journée et demie de test.
Ne cassez pas la voiture.
Ne cassez pas la voiture, ne sortez pas, pilotez de façon sécurisée, point. Et quand est-ce... Alors, Albon, il a ça en tête, et il se sort quand même en essai libre 1, quoi. Tu vois, moi, je pense que là, on est à la limite de la faute professionnelle. Franchement. Et puis, ce qu'il fait aussi en course, je lui dis, mais il a envie de faire une deuxième coque. Et puis, comme ça, Williams peut déclarer forfait pour le Grand Prix du Japon, et là, ça sera réglé, quoi. Non, franchement, il y avait une sorte de désinvolture là-dedans. Et puis... Ben, je me suis dit, de toute façon, si Sargeant est démuni, c'est que c'est pas dans. Enfin, il y a quelque chose qui autorise dans son contrat son équipe à lui prendre sa voiture. Et là, c'est pareil, ben, on doit évoluer peut-être là-dessus. Il y a 30 ans, 40 ans, il y avait un voire deux mulets par équipe. Un pilote qui cassait sa voiture, c'était pas un problème. Il y avait une voiture qui était construite entièrement juste à côté qui l'attendait.
Voilà, on se souvient il y a eu une époque où il y avait trois voitures dans les stands.
Maintenant, les mulets, c'est plus possible de les aligner, de les inscrire a priori. Donc, il faut reconstruire entièrement, hein, ce qui n'est pas simple. Et finalement, en fait, Albon, il n'assume pas tellement son erreur. Je ne l'ai pas entendu remercier. Bah, si. c'est comme Norris à la radio, il n'a pas dit un merci pour Piastri.
Ah ouais.
Merci les gars, merci pour la course d'équipe et la consigne. Bon.
Albon l'a dit en interview après les qualifications, il a quand même mentionné le fait qu'il était un petit peu embarrassé pour Logan Sargeant. Après, c'est James Wolff qui prend cette décision et il faut comprendre la façon de réfléchir de James Wolff. Il se dit que statistiquement, il a plus de chances que Alexander Albon, quand bien même il a été fautif, a plus de chances de ramener un point à l'équipe. Donc c'est dans l'intérêt de l'équipe.
Tout à fait.
Alors, même si c'est dur.
Je trouve que on ne devrait pas se permettre ça. Et là, il faudrait clarifier les choses. Au niveau du règlement, tu as ta voiture, tu as ton matériel, point. Et si tu te crashes, t'assumes. Terminé. En plus, il n'y avait pas un événement extérieur qui expliquait ça.
Ah non, c'est simplement une faute de pilotage.
Ouais, il a trop attaqué, point, il n'assume pas. C'est dommage pour Sargent, ça ne va pas améliorer sa confiance. Bon,
c'est
voilà.
C'est sûr.
Il y aura peut-être un petit dédit pour lui parce qu'il a des sponsors qui payent pour sa présence en Formule 1. Donc ça, c'est une histoire qui coûte quand même. Et puis, ça vient du fait, alors pour remonter un petit peu, c'est James Wolff qui a engagé en fait une nouvelle méthode de construction du châssis, en fait, une façon de tresser les couches de fibres de carbone. Et il a certainement pris ça de chez Mercedes. Et comme ils étaient un petit peu juste pour construire trois châssis, ils ont attaqué la saison qu'avec deux. Mais les pilotes le savaient, mais Albon l'a oublié.
Ou alors il s'est fait, enfin oui, et il s'est fait piéger. Voilà, c'était ce qu'on avait à vous dire après ce Grand Prix d'Australie. On va se retrouver dans deux semaines, hein, ça sera après le Grand Prix du Japon. La F1 fait relâche le week-end prochain. Je crois qu'il y a quelques pilotes qui vont en profiter entre l'Australie et le Japon pour faire un petit détour par quelques îles bien sympathiques du sud-est de l'Asie. Nous on va pas y aller, hein, on va rester là en attendant que ça redémarre du côté de Suzuka. Bah, c'est le Grand Prix de Suzuka, alors on n'a pas l'habitude hein, de l'avoir ça au mois d'avril, ce Grand Prix du Japon. C'est toujours un moment fort dans la saison, le Japon.
Il a été déplacé pour essayer d'avoir une météo un peu plus favorable parce que entre les typhons, les pluies diluviennes, les programmes bouleversés, c'était pas toujours évident. Et puis là, en revenant d'Australie, c'est un peu plus cohérent, enfin, aussi du point de vue du calendrier.
On reste presque dans le même fuseau horaire. En tout cas, on fait un peu moins virevolté, on rappelle. Hein, il y a toujours cet enchaînement là et qui va revenir hein, l'année prochaine entre Las Vegas et c'est où, c'est Bahreïn, où ils vont prendre 12 heures de décalage horaire. Enfin, ça va être magnifique. On en reparlera. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve après le Grand Prix du Japon. Et d'ici là, Stéphane,
on coupe le contact.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.